Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
Le témoin de ce vendredi, il est traducteur de Shakespeare, Jean-Michel Desprats.
Je vaste et universel théâtre présente plus de désolants spectacles que la scène sur laquelle nous jouons.
Le monde entier est une scène. Les hommes et les femmes, seulement des acteurs. Ils ont leurs sorties et leurs entrées. Et un homme, en son temps, joue plusieurs rôles.
L'homme en sa vie joue plusieurs rôles et la langue de Shakespeare, qui n'est qu'à lui, joue sur quantité de registres. Ces mots ont souvent plus d'un sens. Comment les traduire ? Jean-Michel Desprats, notre invité, affiche clairement la couleur. Il n'est pas comme beaucoup traducteurs par vocation rentrée d'écrivain. Il voulait être comédien, metteur en scène. Il animait une compagnie, le Théâtre de la Colline. Il se trouve que c'est par la traduction qu'il s'est le mieux inscrit dans ce monde de la scène dont il voulait être. Il conçoit donc la traduction comme une première mise en scène, celle des mots, afin de présenter aux comédiens un texte déjà maîtrisé. Et cette maîtrise du texte passe par une langue déjà mise en corps, en bouche, en voix. Il est arrivé à Jean-Michel Desprats de travailler au magnétophone, comme Flaubert disant ses textes de son gueuloir. Flaubert qui comprenait si bien celui qu'il appelait le prodigieux bonhomme Shakespeare, parce qu'il savait que l'écriture, c'est aussi une affaire d'air dans les poumons.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Michel Desprats, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un homme de prodige quand même, parce que vous traduisez de l'anglais, vous avez fait des études d'anglais, les plus sérieuses qui soient, vous traduisez un peu de l'italien, vous êtes assez bon en russe maintenant ?
Non, pas du tout. J'adore apprendre les langues et le russe est la dernière.
Et quand vous rentrez de Thaïlande, là, c'est pour une période de relaxation ou bien...
Non, je suis des cours, j'ai suivi des cours de l'INALCO, et puis j'ai un très bon prof à Bangkok, privé, qui m'évite de trop oublier.
Mais vous méritiez relaxation, parce que je dis que vous êtes l'homme de beaucoup de prodiges. Vous venez de faire un livre de 127 pages, format obligé, que sais-je, Presse universitaire de France, sur Shakespeare. Un prodige, hein. 127 pages.
J'ai eu du mal, je ne vous cache pas, parce qu'il y avait les épreuves de la Pléiade des volumes 6 et 7 à corriger, et ça prenait un temps considérable.
Parce que vous avez mené, avec Gisèle Venet, la traduction des nouvelles œuvres complètes de Shakespeare, 7 volumes, achèvement, enfin, à la bibliothèque de la Pléiade. Je crois que le contrat, vous l'avez signé en 89.
Oui, il y aura un volume 8 consacré au sonnet et autres poèmes.
Donc c'est pas tout à fait fini le parcours du combattant. Vous venez à la traduction par la scène. On peut évoquer un des premiers metteurs en scène avec lequel vous avez travaillé sur Shakespeare, Jean-Pierre Vincent.
La première pièce que j'ai traduite est probablement une des plus difficiles, Peine d'amour perdu, 3000 vers, 3000 jeux de mots. Et je l'ai fait dans une intimité de travail considérable avec Jean-Pierre Vincent, qui était déjà un ami. Et ce travail commun nous a renforcé notre amour pour Shakespeare, notre modèle de l'époque, enfin l'idée qu'il y avait un petit peu un modèle qui était Peter Brook, la façon dont il faisait traduire par Jean-Claude Carrière et dont il mettait en scène Shakespeare. Puisque Vincent sortait d'une co-mise en scène de Timon d'Athènes. Et on a monté ensemble, hélas seulement 3 pièces, mais ça a été chaque fois un bonheur extraordinaire.
Le modèle Jean-Claude Carrière, c'est-à-dire l'énergie vocale ?
Exactement, c'est-à-dire aux antipodes d'une traduction universitaire ou d'une traduction exacte mais sans énergie, sans dynamisme. Un texte qui soit à l'écoute de la respiration, de l'énergie physique dont vous avez parlé tout à l'heure de façon très exacte, il m'a semblé.
Vous avez trouvé votre homme en même temps que vous signiez le contrat pour la Pléiade, c'était en 89-90. Vous assuriez le sous-titrage et la version doublée de Henri V selon Kenneth Bragan, et cet homme... Qui était celui qu'il vous fallait ? C'était Gérard Depardieu.
C'était son premier coup d'essai. Il n'avait jamais fait de cinéma, ni même rédigé une bande-son.
C'est aujourd'hui la fête de la Sacrée Pâque. Celui qui, survivra à ce jour et rentrera sain et sauf chez lui, se dressera sur la pointe des pieds quand on citera ce jour. Il se grandira au seul nom de crépin.
Terrifiant parce que je me sens toujours un tout petit peu en dessous parce qu'ils ont des choses plus élargies.
Ceux qui se sont battus avec nous en ce jour de latin crépin.
C'est la labiale et de respecter le feu intérieur de Henri V, qui était ce jeune homme. Et moi, je trouvais que la musique de la langue anglaise est superbe.
We band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition.
Le feu, la musique, la traduction, c'est pas une suite de mots, c'est un chant.
Et là, Gérard Depardieu parle du doublage, des contraintes du doublage et du fait justement de ne pas se laisser trop enfermer dans ce piège. Il faut, sans entrer dans le détail, que quand il y a une labiale en anglais, on ait une labiale en français, sinon c'est pas du tout crédible, puisque c'est une opération de théâtre aussi, le doublage. Hein. On met des mots qui est censé avoir prononcé l'acteur qui a joué en langue originale, ce qui est évidemment une opération purement théâtrale, c'est de masque, de jeu, de leurre.
Et alors la traduction est un chant. Je reprends là votre proposition préférée.
Je veux dire par là que c'est pas une suite de mots exacts, mais morts. C'est pas un clone de l'original. Il faut le faire revivre. Personnellement, l'option que je prends reste quand même celle d'une proximité, même d'une littéralité. Mais évidemment, avec un texte français qui soit aussi un chant, qui ait une dynamique, une énergie, une lyrique, quand le texte que l'on traduit a ces qualités-là.
Mais quand c'est des vers, il y a 4 histoires écrites par Shakespeare qui sont exclusivement en vers. Il y en a d'autres qui sont en vers et en prose. Quand c'est des vers rimés et quand c'est des vers non rimés, comment fait-on?
C'est des vers non rimés, à priori,
toujours
dans Shakespeare. Le blank verse, ça veut dire le vers blanc, donc le terme même employé indique que c'est pas des vers rimés. Alors il y a des rimes dans les fins de scène, dans les poèmes qui sont insérés, par exemple les sorcières, les incantations des sorcières, et il y a des passages, mais rares, qui sont rimés. Donc le problème de la rime ne se pose qu'assez rarement.
Mais le problème du vers, un vers doit
vers
être
tout le temps
traduit en vers.
Absolument. Il y a des pièces qui sont totalement en vers, vous l'avez dit, pas seulement les pièces historiques. Il y a des pièces qui sont en vers et en prose, il n'y en a aucune qui soit totalement en prose. Alors, c'est un problème en effet tout à fait crucial sur lequel se divisent les traducteurs entre ceux qui sont plus formalistes, on va dire, pour qui le vers est essentiel, et donc ils traduisent en alexandrin, ça donne les petites traductions de la collection Budet, vous savez, qui sont un peu du faux Corneille. Je crois que l'emploi de l'alexandrin donne une rigidité et un équilibre que n'a pas le vers anglais, qui est un vers impair. Et il y a un traducteur tout à fait talentueux, qui est André Markovitch, qui lui traduit en décasyllabes. Alors c'est pas l'option que j'ai prise, parce que pour moi, ce qui est premier, c'est dans la logique de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la rythmique. C'est-à-dire donc l'implication du corps, alors le français n'est pas une langue accentuelle, mais il faut quand même garder quelque chose de cette densité rythmique, et personnellement, c'est ce que je privilégie. Alors j'utilise l'alexandrin pour la traduction des premières comédies, qui sont beaucoup plus formelles, qui sont beaucoup dans la rhétorique, mais en évitant toujours que l'alexandrin s'installe. Parce qu'il installe, quand on le laisse se déployer, une musique qui est beaucoup plus, qui rappelle beaucoup plus celle du théâtre français classique que l'anglais.
Alors, le français classique, il est en usage à la cour en Angleterre. Je vous propose de trouver un autre exemple dans Henri V, nous sommes dans l'acte 5, le roi Henri fait sa cour à Catherine de Valois,
une princesse française. Quelle langue va-t-il utiliser ? Voici un extrait dont on a entendu une bribe trop tôt, il y a quelques instants. Tout Shakespeare en 18 émissions, c'était la radio française en 1950, une production, une adaptation de messieurs Léon Ruth et René Maurice Picard, avec dans le rôle d'Henri V, Maurice Escande, soi-même.
Très belle Catherine. Voudriez-vous faire à un soldat la grâce de lui enseigner des paroles dignes de plaider auprès de votre chanticleer la cause de son amour ?
Votre Majesté se moquera de moi. Je ne sais pas parler votre anglais.
Belle Catherine, si vous m'aimez avec votre cœur français, confessez quand même votre amour en anglais incorrect. Do you like me, Catherine ?
Oh, pardonnez-moi. Je ne puis dire ce que c'est que « like me ».
Un ange, « like » vous, Catherine. C'est-à-dire, vous êtes comme un ange.
Oh, bon Dieu. Les langues des hommes sont pleines de tromperies.
Ah, sur ma foi, Catherine, ma galanterie est d'accord avec ton intelligence de notre langue. Je suis heureux que tu ne saches pas mieux parler l'anglais. Car si tu l'entendais mieux, tu trouverais en moi un roi si simple que tu penserais que j'ai vendu ma ferme pour acheter ma couronne. Ah, je ne sais pas aller par quatre chemins en amour. Toute ma science consiste à dire directement « je vous aime ». Donnez-moi votre réponse et frappons-nous dans la main. Concluons l'affaire. Qu'en dites-vous, dame ?
Oh, sauf votre honneur, moi entendre bien.
Moi entendre bien, dit, est-ce que c'est du petit nègre, la princesse Catherine. Alors, dans votre traduction, maintenant, c'est autrement rythmé, et c'est Philippe Torreton qui est dans le rôle d'Henri V.
Si tu veux un homme comme celui-là, prends-moi, prends-moi, et tu prends un soldat. Prends un soldat, et tu prends un roi. Eh bien, que dis-tu de mon amour ? Parle, ma gentille, et gentiment, je te prie.
Is it possible that I should love the enemy of France ?
Non, il n'est pas possible que vous aimiez l'ennemi de la France, Kate. Mais en m'aimant, vous aimerez l'ami de la France. Car j'aime tellement la France que je ne veux pas renoncer à un seul de ses villages. I will have it all mine. And Kate, when France is mine, and I'm yours, then yours is France, and you are mine.
Torreton et Marie Vial dans le rôle de la princesse Catherine qui font rire le public d'Avignon.
Vous m'avez choisi des exemples particulièrement savoureux et particulièrement difficiles, puisque ça, c'était l'exemple d'une scène à peu près intraduisible, puisqu'il y a une partie qui est en français, mais selon la convention de la traduction, c'est le roi d'Angleterre qui parle un français parfait. Et dans la scène telle que Shakespeare l'a écrit, c'est la princesse de France qui parle un français boiteux, auquel d'ailleurs le futur Henri V, répond dans un français encore plus boiteux. Alors, c'est un problème singulier, puisqu'il ne se pose absolument pas pour les Allemands, les Italiens, les Russes, etc., qui jouent la pièce telle qu'elle est écrite, avec ce français boiteux, bizarre, qui à la fois est en partie authentique de tournure du XVe siècle, que Shakespeare avait entendu sans doute auprès de ses amis huguenots, exilés en Angleterre, mais c'est surtout de l'anglo-normand. Alors il y a à la fois les ignorances qu'avait Shakespeare du français, il le parlait un peu mais pas très très bien, il y a les caractéristiques de l'anglo-normand, et qu'est-ce qu'on fait quand on traduit en français, puisque le roi d'Angleterre va parler un français parfait, on peut pas donner à Catherine d'Aragon un français boiteux. Alors pour le sous-titrage que j'avais fait du film, donc à la demande de Depardieu qu'on a entendu tout à l'heure, j'avais gardé les choses telles quelles, mais c'était joué par des Anglais, et Emma Thompson, qui parle très bien français, prenait elle aussi un petit accent anglais, qui est, par parenthèse, la seule chose qui est, dans l'adaptation qu'on a entendue avant, parce que c'est pas une traduction, qui est gardée par les adaptateurs. Mais j'ai systématisé le principe qui apparaît une seule fois dans l'extrait que vous nous avez fait entendre, c'est « do you like me ?», c'est-à-dire je redonne des énoncés en anglais beaucoup plus nombreux qu'ils ne sont dans l'original, enfin shakespearien traduit, de manière à ce qu'on comprenne bien qu'il y a un des facteurs comiques qui est qu'ils ne se comprennent pas. Et qui font un massacre de la langue l'un de l'autre et l'une de l'autre.
Tout ça est d'autant plus vertigineux que l'anglais de Shakespeare n'est pas nécessairement très bien compris, si on se place maintenant du point de vue des îles britanniques, par les Anglais contemporains et Puisqu'il fallait choisir une musique à cet instant précis de l'émission, j'ai trouvé une référence dans votre Que sais-je, une référence appuyée, Looking for Richard. C'est le film d'Al Pacino. C'est une troupe qui interprète aux États-Unis, on passe maintenant de l'anglais à l'anglais des États-Unis, la pièce Richard III. Ça va être le motif de toutes sortes de réflexions.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Michel Desprats, traducteur de Shakespeare, sept volumes, bientôt un huitième dans la collection de la Pléiade. Et dans votre Que sais-je sur Shakespeare, vous parlez donc de ce film que vous trouvez très intéressant d'Al Pacino.
Plus que très intéressant, prodigieusement intelligent, très instructif sur le travail d'une troupe, que ce soit pour le théâtre ou pour un projet filmique. Et on a entendu une musique liturgique, c'est filmé au cloître à New York, The Cloisters. C'est des cloîtres français qu'ils ont pris il y a quelques siècles pour les installer au cœur de New York. Et alors, ça se présente comme une enquête, « looking for », dit bien la chose, sur les enjeux politiques théâtraux de Richard III, parce que c'est une pièce aussi très compliquée. Vous savez, on a surtout joué en France les tragédies, un peu moins les comédies plus tardivement, et très très peu les pièces historiques, et pour cause. Puisque une d'entre elles qu'on évoquait tout à l'heure, Henri V, raconte surtout la défaite... crucial et dans l'histoire et terrible pour la France, d'Azincourt, où il y a eu 5 fois plus de morts du côté français que du côté anglais. Et alors, Al Pacino évoque tous les problèmes qui se posent à une troupe, d'essayer d'expliquer les rapports entre des personnages qui, dans l'original en plus, ont pas souvent le même nom d'une fois sur l'autre. Et je dis que c'est compliqué parce que même si maintenant les historiens fascinés par la pièce de Shakespeare, ont pendant un temps cru que Shakespeare racontait l'histoire véridique. Aujourd'hui, on sait que c'est un mythe. Richard III, dans la dimension criminelle que lui prête Shakespeare, qui n'avait comme source que les historiographes Tudor, crée un personnage légendaire qui était nécessaire du point de vue idéologique, puisque la dynastie des Tudor, que la reine me pardonne le lendemain de ses 90 ans, est une dynastie illégitime. Et Richard était légitime.
Dont acte, Jean-Michel Desprats. Alors, on va voir que les difficultés surgissent dès le départ. C'est le monologue du début. Richard III n'est pas encore Richard III. Il est duc de Gloucester. Et voilà comment ça commence. Souvenez-vous.
Now is the winter of our discontent. Met glorious summer by this son of York, and all the clouds that cloud upon our house, in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious rest.
Un simple adaptateur serait tenté de traduire Nao par « maintenant que », mais non, un vrai traducteur, tenez, Pierre Léris.
Voici l'hiver de notre déplaisir, muet en radieux été par ce soleil d'York. Et les nuages qui menaçaient notre maison enfouis tous au fin fond des mers. Voici nos tempes ceintes de guirlandes triomphales, nos armes entamées pendues en trophées, nos alertes sévères changées en joyeux rout, nos marches terrifiantes en mesures exquises.
et votre propre choix, Jean-Michel Desprats, dans la bouche d'Ariel Garcia Valdés.
Or, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York et tous les nuages qui menaçaient notre maison ensevelie au sein profond de l'océan. Voici nos fronts parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées suspendues en trophée, nos austères alarmes changées en guerre en coupe, nos marches redoutables en pavanes exquises.
Tout est dans l'attaque. Maintenant que, voici, or, voici...
Je l'ai entendu dans aucune des trois. Le tout début, les premières secondes semblent avoir été un peu effacées. L'anglais commence par « now ». Alors, bon, je suis certainement un shakespeareophile obsessionnel, mais je trouve ça génial comme pièce de théâtre. Le théâtre, c'est l'art du maintenant. Donc, commencer une pièce par « now », qui est un monosyllabe en anglais, qui forcément crée l'écoute tout de suite, « now », je me suis dit qu'il ne fallait pas du tout avoir un début mou, du genre « à présent, maintenant, en ces temps nouveaux, etc. etc. » Et je me suis souvenu que en vieux français, or, O-R-E-S, bon, que, évidemment, personne ne comprend directement aujourd'hui, or signifiait maintenant. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est un monosyllabe. Et peu importe si on entend or, parce qu'après tout, c'est aussi un début saisissant de commencer une pièce par or, qui est, a priori, la deuxième partie d'un syllogisme. Donc, ça a l'air d'un détail, pour moi ça ne l'est pas. Traduire, là, c'est traduire l'attaque. En une syllabe, on est dans l'action, dans le feu de l'action.
Et qu'il y ait deux orthographes, ça va bien avec Shakespeare. Or, ou R.
Shakespeare jouait, c'est
O-R-E-S, du son. Parce qu'il y a toujours, souvent, double sens chez Shakespeare dans ces mots.
Oui, puis peu importe qu'on entende or, le théâtre c'est fait pour être joué, c'est fait pour être dit, c'est pas fait pour être lu. A priori, même s'il y a évidemment transcription par écrit des traductions ou des textes originaux, c'est tout de même d'abord, d'ailleurs à l'époque élisabéthaine, on disait qu'on allait hear a play, on allait écouter une pièce, pas la voir. Aujourd'hui, on va voir un spectacle d'abord, on allait écouter une pièce. Et voilà, je crois que cette dimension-là, elle est capitale, même si ça paraît un détail. Mais après tout, une traduction, c'est une série de choix de détails.
Quand même, le traducteur, vous préconisez qu'il travaille avec le metteur en scène. Il peut se trouver en désaccord avec le metteur en scène s'il n'est pas entendu dans le choix des détails. Pierre Léris, dont on entendait la traduction tout à l'heure, celui qui disait « voici, voici ». Pierre Léris s'est fâché avec Patrice Chéreau très violemment en 1980 autour d'une des mises en scène de Chéreau. Vous comprenez ça? Ça pourrait vous arriver?
Oh bah oui,
vous
ça,
défendriez le traducteur?
Non, ça ne pourrait pas m'arriver. Parce que le choix que j'ai fait, c'est justement de traduire pour le théâtre. Et on parlait tout à l'heure, en début d'émission, de la collaboration avec Jean-Pierre Vincent. Contrairement aux idées peut-être simplistes qu'on pourrait avoir, ce n'était pas lui qui disait « Écoute, il faut que tu penses théâtre, ça ne peut pas se dire ». Il intervenait pratiquement plus sur une exigence de sémantisme, de sens précis. Et moi, plus sur des questions de rythme que sur des questions de sens. Donc voilà, c'était réversible, c'était pas l'homme de théâtre qui enseigne à l'universitaire, c'était dans les deux sens. On a fait une vraie collaboration, autant soucieuse, évidemment, d'exactitude. Puis, si on veut traduire les jeux de mots, il faut traduire de manière exacte, même transposée. Et de l'autre, quelqu'un qui aurait été simplement un homme de lettres, de l'écrit.
Il n'y a pas que les jeux de mots. Il y a aussi tous les mots qui n'appartiennent qu'au vocabulaire de Shakespeare. Il emploie entre 20 000 et 30 000 mots, dites-vous. Alors, nous voici dans un moment très important. Macbeth et les sorcières, faut-il d'ailleurs dire les sorcières, ce sont les sœurs du destin, les sœurs de la lisière. Écoutez, c'est une version de la BBC.
Au milieu, un chaudron bouillant, et autour, les trois sorcières.
Oh, and gulf of the ravined salt sea shark, root of hemlock digged in the dark, liver of blaspheming Jew, wall of goat, as lips of you slivered in the moon's eclipse, nose of Turk and Tartar's lips, finger a birth-strangled babe, ditch-delivered by a drab, make the gruel thick and slab.
Add thereto a tiger's children for the ingredients of our cauldron. Double, double toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble.
Cool it with a baboon's blood. Then the charm is fervent. Come.
Mais je suis pas très savant, mais est-ce que ce sont seulement des mots, c'est des atomes?
J'ai commencé par cette scène parce que c'était la plus difficile. Ça correspond en français à aucun maître existant, et pourtant il me semblait qu'il fallait qu'il y ait cette rythmique. Ça va être technique, mais peu importe, je vais expliquer. C'est écrit dans un maître autre que le maître couramment utilisé par Shakespeare, qui est le pentamètre iambi, ce qui a l'air compliqué, mais qui est tout simple, qui veut dire simplement qu'il y a cinq pieds de deux syllabes, et que le rythme, c'est une syllabe non accentuée, suivie d'une syllabe accentuée. Rythme qu'on perçoit très facilement dans « to be » ou « not to be »,« that is the question », qui fait d'ailleurs 11 syllabes et pas 10. C'est ce qu'on appelle en anglais les vers féminins. Ça veut dire que l'accent est sur la dixième dans tous les cas de figure et qu'il y a une onzième syllabe qui sert surtout à faire le lien, à retomber en début de vers. Bon, ça c'est le pentamètre iambique ou décasyllabe iambique. Ce qui est important,
pas,
c'est iambe.
C'est pas ça qui est expliqué dans le film d'Al Pacino là.
Si,
avec
si.
La comparaison oui, avec un tamanoir.
Oui, bon, c'est un film
ça, plein, je comprendrais mieux.
Plein c'est d'humour.
Quel est le rapport avec le tamanoir?
Le collaborateur de Al Pacino qui fait semblant d'être un andouille et qui ne comprend rien des choses techniques, lui explique que c'est comme un tamanoir qui est plus petit devant, sur les pattes ouais. de devant, et plus grand sur les pattes de derrière.
Bah alors maintenant qu'on comprend mieux,
not to be,
comment faites-vous avec
ah ben moi je ne peux
chaudron.
Pas reproduire une rythmique qui n'existe pas en français.
Ouais.
On peut simplement essayer de produire une sorte d'écho sonore. Vous avez entendu à quel point c'est rythmé en anglais, parce que c'est une langue beaucoup plus consonantique que la nôtre.
Alors qu'est-ce que vous proposez là dans ce cas précis?
De suivre les accents
et
de
chaudron.
Traduire en vers de sept syllabes qui n'existent pas en français.
Jetez-nous dans le chaudron, ça donne.
Tout autour du chaudron, tournons, jetons-y tripes et poison. Crapaud qui... Alors là, moi, je ne la sais pas par cœur, il faudrait que je prenne le français. Mais disons que le choix que j'ai fait, c'est d'être aussi proche que possible de la rythmique de l'anglais. Et ça s'appelle, vous allez bondir parce que c'est encore plus savant, des tétramètres trochaïques.
Et ben voilà, c'est le
voilà.
dernier mot, on l'a
c'est
trouvé,
dit, c'est
Michel
dit.
Desprats. En tout cas, avec vous, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est même... quand les situations sont extrêmement difficiles. Vous ne coupez pas dans le texte de Shakespeare et vous vous y affrontez. Alors, les difficultés que vous affrontez, vous, Mathieu Vidard?
Ben, c'est celle du nez, pour commencer, avec un bon gros rhume. Mais justement, on va parler de revue olfactive aujourd'hui, donc ça tombe bien. On parlera d'anamorphose et puis également de la naissance des maladies, Jean.
Anamorphose, avez-vous dit. Ah, c'est oui. encore un mot compliqué. Allez, un petit peu de publicité simple.